L'effet Barnum. Impossible de vous lister les biais cognitifs majeurs dans les processus de manipulation sans vous parler de l'effet Barnum, autrement appelé l'effet Forer. Ce biais a été démontré en 1948 par le psychologue Bertram Forer. Son étude porte sur l'hypothèse qu'un biais cognitif a tendance à nous faire raccorder des éléments vagues, généralistes, à notre propre vie et expérience. Bertram Forer a démontré cet effet de la manière suivante. Il a réuni des étudiants et leur a donné à lire un texte décrivant un type de personnalité, largement inspiré d'une collection d'horoscopes de l'époque. Les étudiants ne savaient pas quel texte recevaient les autres personnes. En réalité, il n'y en avait qu'un seul. Voici le texte d'origine, tel qu'il a ensuite été publié dans le volume 44 du Journal of Abnormal and Social Psychology en 1949. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Suite à cette lecture, Forer demande à ses étudiants d'attribuer une note de 0 à 5 sur la pertinence de la description de leur personnalité dans le texte. La moyenne des élèves se révèle de 4,26 sur 5. Tous les élèves avaient l'impression que le texte parlait vraiment de leur propre personnalité. Ce biais cognitif est sûrement le plus exploité par les faux-voyants, faux-médiums et faux-astrologues, en admettant bien sûr que des vrais puissent exister. Il est aussi utilisé par mes confrères et moi-même, les mentalistes, lors des spectacles. Si je parle d'une maison de votre enfance, vous allez tout de suite chacun visualiser votre maison. Si je parle qu'un jour vous y avez subi une injustice tellement importante pour le vous enfant que ça vous arrive encore d'y repenser, vous allez tous penser à un souvenir de cet ordre. Comme je n'ai pas donné votre âge, vous pouvez puiser dans vos souvenirs allant de nourrisson à collégien pour raccorder ce souvenir. Il y a peu de chances que de 0 à 15 ans, vous n'ayez jamais vécu ce sentiment. Le cerveau veut suivre la conversation. À partir du moment où je décris un de vos souvenirs, même vaguement, c'est comme si je demandais à votre cerveau de choisir lui-même un moment de votre vie qui correspond à la description que je viens de faire. Ainsi, vous allez avoir l'impression que je raconte spécifiquement votre vie. On dirait un truc de charlatan ? Oui, parce qu'il est très utile dans la manipulation et dans les pseudosciences. C'est pour cela qu'il a été baptisé l'effet Barnum, en référence à P.T. Barnum, le bonimenteur entrepreneur qui se définissait lui-même comme le prince des charlatans. Si cela vous fait penser à la tante du même nom, c'est normal. Barnum a créé le cirque. Et comme il a été ruiné après l'incendie de son théâtre, il a installé tout le monde sous une toile. Il a ainsi inventé le chapiteau de cirque. Le terme « Barnum » vient donc de là, ainsi que l'expression « faire un Barnum ». Le biais de conformisme. On l'appelle aussi le biais de conformité, ou le syndrome de Panurge, en référence au mouton de Panurge. Pour faire simple, il s'agit de notre capacité à laisser de côté nos convictions personnelles pour suivre celles qui sont majoritairement adoptées par le groupe. Encore un biais qui fait mal à notre ego qui va se convaincre de sa liberté de choisir, mais qui existe bel et bien pour le plus grand plaisir des vendeurs, des politiciens et des manipulateurs. Le psychologue Solomon Asch, dans les années 1950, avait mis en évidence ce biais en demandant à des personnes de comparer la longueur de deux segments droits. La majorité, en réalité des complices de Asch, disait que le premier segment était le plus long. Il était en fait visiblement plus court, mais le vote majoritaire suffisait pour que les personnes testées suivent l'avis général. Une autre étude, réalisée en 2012, visait à connaître l'influence des sondages sur les votants. Le protocole était de demander à 1000 personnes leur intention de vote entre le premier et le deuxième tour des élections françaises, où il ne restait que deux candidats. Après avoir noté leurs intentions, les chercheurs ont montré les derniers sondages récents, trafiqués pour l'expérience, qui mettaient largement en tête le candidat pour lequel ils n'allaient pas voter. Plus tard, dans la journée, les participants ont de nouveau été interrogés sur leurs intentions de vote, et 25% d'entre eux avaient changé leur vote pour rejoindre la majorité du faux sondage qu'ils avaient vu avant. Une personne sur quatre. Vous constatez la puissance de ce biais. Certains manipulateurs vont invoquer des avis généraux, du type « tout le monde sait que » pour faire appel à ce biais. Faites attention de ne pas suivre le groupe par réflexe. Le biais de confirmation. Celui-ci est très populaire dans nos cerveaux. Il vient nous aider à renforcer l'idée que nous avons fait le bon choix et que notre avis est le bon. Tout ce qui va être présenté à votre connaissance va subir un traitement d'importance. Si ça renforce ce que vous pensez, c'est validé. Si ça contredit ce que vous pensez, c'est minimisé. Ce biais explique les débats houleux où vous pouvez avoir l'impression que personne ne prend en compte les arguments de l'autre partie. Et c'est bien le cas, effectivement. Ce biais commun renforce les croyances des individus, même lorsque des données venant contredire ces croyances sont présentées. Cela occasionne de mauvaises décisions dans la vie d'entreprise et même en politique. Des manipulateurs se serviront forcément de ce biais pour atteindre leurs objectifs. Il est essentiel que vous sachiez suspendre votre jugement pour faire un point sur les données que vous avez, afin de pouvoir réviser vos croyances si nécessaire. Le biais du survivant. Je ne vous cache pas qu'il s'agit de mon préféré à expliquer. Je me le suis gardé en dixième pour cette raison. Le biais du survivant est notre capacité à estimer et à surévaluer nos chances de réussite en prenant en compte ceux qui ont réussi avant nous, mais qui sont des exceptions statistiques. On devrait prendre en compte l'ensemble de ceux qui ont réussi et de ceux qui ont échoué afin d'évaluer nos propres chances. Par exemple, si je souhaite devenir un chanteur très connu, je vais me rassurer en pensant à toutes les grandes figures de la musique que j'apprécie et qui n'avaient pas de meilleures opportunités que moi à leur début. Mais je devrais prendre en compte l'ensemble de celles et ceux qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Bon, je devrais aussi prendre en compte la qualité de ma voix car je vous assure que vous ne souhaitez pas m'entendre chanter. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi il s'agit de mon biais préféré. Les impacts des bombardiers. Tout commence lors de la Seconde Guerre mondiale. Le statisticien Abraham Wald doit renforcer les avions car la casse des bombardiers est une grosse perte économique à chaque fois. L'armée souhaite donc blinder leurs appareils aux bons endroits pour s'assurer de leur retour à la base. Plusieurs ingénieurs ont déjà essayé et pourtant, les pertes de bombardiers sont toujours les mêmes. C'est là que Wald intervient. Il n'est pas ingénieur, mais il est rationnel. Il recommande d'étudier tous les bombardiers qui sont rentrés à la base après s'être fait tirer dessus et de blinder toutes les zones qui n'avaient pas reçu de balles et qui n'avaient pas d'impact. Sa théorie, juste, est la suivante. Les impacts retrouvés sur les bombardiers qui sont rentrés à la base prouvent que les avions peuvent se faire tirer dessus à ces endroits et quand même revenir. Les bombardiers ayant reçu des balles à d'autres endroits ne sont pas rentrés. C'est donc ces zones qu'il faut blinder. CQFD. Depuis des mois, les équipes n'examinaient que les impacts reçus par les avions qui revenaient pour ensuite blinder ces mêmes zones. Un exemple du biais du survivant en action. Cette pensée à 360 degrés démontre une recherche de contre-exemple. C'est votre prudence à sélectionner les données qui vous évitera de tomber dans ce biais cognitif.